Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, nous allons partir à la rencontre d'une tradition musicale peu connue, celle des anciennes communautés maranes du sud-ouest de la France, dont la liturgie est qualifiée de judéo-portugaise ou encore hispano-portugaise. Je ne rentrerai pas dans le débat ce soir. Mais cette musique, dont il subsiste aujourd'hui des traces essentiellement rituelles, se rattache à l'histoire passionnante des Juifs maranes, ces Juifs convertis de force durant le XVe siècle et pourchassés par l'Inquisition. Et pour vous raconter cette histoire en musique, pour une fois je serai seul dans ce studio ce soir, car pour avoir consacré 7 ans de mon existence aux traditions musicales judéo-portugaises dans le cadre d'un doctorat, j'ai eu du mal à trouver un autre spécialiste que moi. Et donc, en toute modestie, je vous imposerai ma présence. C'est pourquoi, exceptionnellement ce soir, je serai à la fois l'invité et l'invitant, le conteur et vous, j'espère, content. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter dès à présent un court chant de Lagba Omer en espagnol destiné aux enfants du Talmud Torah. Ia vos benignos señores, chanté par le soliste Christian Morin et la chorale des enfants de la synagogue de Bordeaux. Alors voilà un chant en espagnol, je ne sais même pas si j'ai fait du judéo-espagnol en réalité. Et que dit-il? Et à vous, gentil Seigneur, qui avec tant de zèle, tant de clarté, prenez soin de cette œuvre pieuse, que Dieu récompense votre action et vous serez par lui béni. Et ceux qui ont la volonté et non la capacité, que Dieu béni soit-il, leur dispense sa grande générosité, afin qu'il puisse accomplir sa bonne volonté. Et les enfants reprennent et disent « Dieu béni soit-il, bénira les élèves du Talmud Torah par sa miséricorde. Sa lumière éclatera, sa clémence resplendira sur tout Israël. » C'était à l'occasion d'un concert enregistré dans la synagogue de Bordeaux pour les 120 ans de la synagogue. Et comme vous le voyez, les enfants du Talmud Torah à Bordeaux chantent encore parfois certains chants en espagnol, témoignage d'un passé glorieux. En effet, la communauté de Bordeaux est avec celle de la synagogue de la rue Buffo à Paris, l'une des dernières en France à perpétuer le rite dit portugais, qui fut longtemps, il faut le savoir, le seul rite séfarade français jusqu'à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord au début des années 60. Et pourtant, cette musique diffère totalement de celle des Juifs d'Afrique du Nord. Elle est reliée au rite séfarade au sens étymologique du terme. En effet, en hébreu ancien, le terme séfarade désigne les Juifs de la péninsule ibérique, qui, selon la légende, se seraient implantés déjà à l'époque du roi Salomon. Mais d'un point de vue archéologique, en fait, l'inscription funéraire la plus ancienne trouvée atteste une présence juive à Adra au IIIe siècle de l'ère vulgaire seulement. La toute première communauté juive espagnole acquiert alors une certaine importance, mais à la fin du VIe siècle et durant tout le VIIe siècle, son expansion et sa quiétude vont être troublées par les persécutions des rois wisigoths qui imposent des décrets restreignant la pratique du judaïsme. En 711, c'est la conquête arabe qui s'étend progressivement à toute la péninsule ibérique. Et les juifs bénéficient d'un statut plutôt favorable, donc une situation qui s'améliore et qui attire les juifs installés en Afrique du Nord. Cette prospérité favorise l'éclosion d'une civilisation brillante où se côtoient harmonieusement les ressortissants des différentes religions. C'est le fameux âge d'or. Les juifs, donc, au contact de la culture arabe, développent leur activité dans des domaines aussi variés que l'économie, la science et les arts. Ils occupent souvent une place importante dans la société médiévale comme médecins, comme astronomes ou comme poètes. Et à cette même époque se développe en Espagne une importante école de poésie juive chantée, que l'on appelle des piyutim, en hébreu donc c'est la poésie chantée, poésie religieuse, inspirée de la métrique arabe, de ses modes et de ses formes, notamment l'alternance de couplets et de refrains sur une musique rythmée que tout le monde peut facilement chanter. Et je vous propose pour illustrer ceci d'écouter un second extrait, la prière Avinu Malkenu, chantée lors des jours de pénitence dès le IIe siècle avant l'ère chrétienne, et dont le texte est attribué au rabbin Akiba ben Yosef. Avinu Malkenu, ce qui n'est pas proprement parlé un piyout, mais une belle prière restituée ici, je dirais même reconstruite par l'ensemble Alia Musica dans son album El Canto Espiritual Vio de Espagnol, publié chez Harmonia Mundi Iberica en 1997. Lorsque je parle de reconstruction, c'est bien évidemment qu'on ne sait pas comment sonnait précisément la musique de cette époque-là en Espagne. Il nous reste des mélodies. Et sur ces mélodies, l'ensemble Alia Musica a appliqué un traitement qui semble tout à fait judicieux, puisque c'est celui de traiter cette musique comme toutes les musiques médiévales qui étaient alors chantées en Espagne à cette époque-là. En Espagne toujours, donc, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, la situation des Juifs en Espagne musulmane se détériore. Et au cours de cette même période, les rois chrétiens qui ont entamé la reconquête de l'Espagne favorisent la vie des Juifs sur leurs terres. La Castille devient alors un espace de liberté pour de nombreuses communautés. À la moitié du XIIIe siècle, les rois chrétiens castillans conquièrent la majeure partie de l'Andalousie. Et alors, leurs attitudes vont changer. Elle devient beaucoup moins tolérante vis-à-vis des Juifs. En 1391, des communautés entières sont exterminées, les enfants vendus comme esclaves ou convertis de force. Refusant ce baptême imposé, un grand nombre de conversos continuent de pratiquer le judaïsme en secret. L'an 1492 marque la chute du royaume de Grenade, dernier bastion arabe en terre espagnole, et quelques mois plus tard, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille proclament l'unité de l'Espagne et décrètent l'expulsion de tous les juifs hors du royaume. Une minorité de juifs espagnols s'exile en Turquie ou en Afrique du Nord, et la majorité trouve temporairement refuge au Portugal. Mais cette hospitalité sera de courte durée, puisque 5 ans plus tard, en 1497, le roi portugais Manuel Ier prend à son tour un décret où il convertit en fait de force ses réfugiés juifs. Certains sont également exterminés, mais la plupart sont convertis. Puis l'expulsion des juifs de Navarre en 1498 sonne le glas de la dernière communauté juive sur le sol ibérique après 13 siècles de présence ininterrompue. Mais il reste sur ce sol espagnol ou portugais, de nombreux crypto-juifs, c'est-à-dire des convertis, des conversos, que l'on appelle maranos en espagnol ou maraos en portugais, un terme dont le sens demeure un peu étranger, enfin étrange, on soupçonne que ça la désigne en fait ceux qui mangent, qui ne veulent pas manger plus exactement du porc. Donc ces maranos ou ces maranes subissent donc les persécutions des inquisitions espagnoles et portugaises. Et plusieurs centaines de maranes rejoignent ainsi des communautés juives déjà existantes, comme celle d'Amsterdam, de Londres, de Livourne, ou bien de Hambourg, où ils retournent ouvertement au judaïsme. Et d'autres, sous couvert de leur nouvelle identité chrétienne, s'établissent dans le sud-ouest de la France. Et c'est cela qui vont nous intéresser ce soir. Car c'est dès la première moitié du XVIe siècle que l'on trouve trace de l'arrivée de plusieurs familles de maranes qui s'implantent dans la région de Bordeaux et de Bayonne, qui venaient d'être fraîchement reprises aux Anglais par les rois de France. Et certains de ces crypto-juifs ont abandonné le judaïsme, comme par exemple la famille Lopez, d'où est issue la mère de Michel de Montaigne, mais d'autres pratiquent encore le judaïsme en secret. Et nous allons entendre de suite un autre exemple musical.
Oh.
Boré Adana, également la Paloma, il s'agit d'un chant de Tisha B'Av, une première fois chanté en hébreu, puis en espagnol. On entend derrière ce chant triste l'appel de ces crypto-juifs, de ces maranes obligés d'observer la foi chrétienne alors qu'ils pratiquent le judaïsme en secret. Et donc c'est un chant de Tisha B'Av. Tisha B'Av, comme on le sait, le 9 av, c'est la destruction du temple de Salomon. Mais c'est également pour eux l'expulsion des juifs d'Espagne. La conversion forcée a été une véritable catastrophe pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs bien installés en Espagne depuis des siècles. Et ce chant dit au Créateur, jusqu'à quand, Créateur, jusqu'à quand ta colombe restera-t-elle prisonnière dans la fournaise, pauvre et abattue, privée de ses fils, elle est là, solitaire, invoquant le Seigneur. Et le refrain dit, Seigneur, Seigneur, elle est là, solitaire, invoquant le Seigneur. Donc chant de Tisha B'Av qui permet de comparer en quelque sorte la destruction du temple, l'expulsion des juifs d'Espagne, cette catastrophe qui s'est abattue sur le peuple juif et qui a engendré par la suite des mouvements kabbalistiques tels l'école de Safed, le faux messie Sapatatsvi et plus tard le racidisme. Mais pour l'instant, revenons à nos nouveaux chrétiens qui vivent donc sur le sol bordelais et bayonnais. Ils arrivent donc au début du XVIe siècle, et en 1550, ils se regroupent sous l'appellation de marchands portugais, et ils obtiennent des lettres de patente du roi, des lettres patentes du roi François Ier, qui donc leur accorde sa protection, le droit de résider à Bordeaux et de faire commerce. Et quelques temps plus tard, ces maranes portugais sont rejoints par de nombreux juifs espagnols. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'on entend ces chants, ils sont en espagnol et non pas en portugais, puisque le portugais est rapidement supplanté par l'espagnol, considéré comme la langue des intellectuels. C'est également à partir de 1550 que de nouveaux chrétiens, on les appelle comme ça, les nouveaux chrétiens, s'installent dans les faubourgs de Bayonne ou dans les agglomérations rurales environnantes. En effet, Bayonne ne les veut pas dans ses murs et les tient en marge de l'autre côté du fleuve de l'Adour, à Bourg-Saint-Esprit. Évidemment, la pratique de la religion juive leur est interdite. Les familles sont inscrites comme membres des paroisses, même si on ne les force pas à baptiser les enfants et à pratiquer le culte catholique. Et en fait, pendant près d'un siècle, les juifs prient secrètement dans des oratoires privés, et ce n'est que vers 1660-1680 qu'ils reçoivent le droit d'édifier librement leur synagogue, et à cette même époque, ils achètent des terrains pour y établir leur cimetière. Il faut dire qu'en décembre 1656, les marchands portugais bayonnais bénéficient à leur tour des lettres patentes leur accordant protection et droits. Dès lors, cette communauté bayonnaise devient plus téméraire et engage dès 1670 un rabbin, en l'occurrence Isaac Israël de Avila. Passage obligé des conversos, qui fut l'Inquisition, Bayonne, aux portes donc de l'Espagne, devient peu à peu la plaque tournante d'une judaïsation orchestrée par la communauté mère d'Amsterdam, qui envoie dans toutes ces communautés filles, en quelque sorte, des rabbins, des chantres formés dans ces séminaires. On a trouvé de nombreux échanges de lettres entre la métropole, donc d'Amsterdam, et les communautés périphériques, qui établissent avec certitude qu'Isaac Acosta, qui était probablement originaire d'Amsterdam, était déjà Razan à Pereorad, donc ça c'est dans la campagne autour de Bayonne, dès 1690. Malheureusement, de cette période de clandestinité, on a très très peu de documents, à l'exception des sinistres dossiers inquisitoriaux, parce que l'époque est encore aux suspicions et aux persécutions pouvant engendrer la mort. Ainsi, non loin de là, en 1685, le Parlement de Toulouse a fait brûler vifs les 8 membres d'une communauté marane. Au XVIe siècle et XVIIe siècle, la France n'est donc qu'une terre de passage pour les nouveaux chrétiens fuyant vers la Hollande ou les nouvelles colonies. Mais tout cela va changer au XVIIIe siècle. À Bayonne et à Bordeaux, les familles juives s'enracinent durablement dans le terroir local, les communautés s'organisent et deviennent même prospères, à tel point que le phénomène migratoire s'inverse et qu'un nombre relativement important de juifs d'Amsterdam viennent s'établir au sein des communautés juives portugaises françaises. Bordeaux attire de son côté de nombreux juifs tudesques. Les juifs tudesques sont en fait les juifs originaires d'Allemagne, d'Alsace-Lorraine et de Pologne. De juifs également avignonnais, les fameux juifs du comte Avenessa, et de juifs italiens. Ils ne sont pas forcément bien reçus, la communauté de Bordeaux tenant à préserver ses privilèges. Elle a toujours peur également que trop de juifs finissent par attirer l'attention. Les communautés portugaises sont soumises à de forts courants d'émigration, et nombreux sont également des juifs bordelais et bayonnais à émigrer vers d'autres communautés comme Amsterdam, Londres et Saint-Domingue, notamment par le biais de mariages ou d'échanges commerciaux. De plus, dès la fin du XVIIe siècle, Bordeaux et Bayonne reçoivent la visite d'émissaires en provenance de Terre Sainte, et ces relations intercommunautaires favorisent évidemment un renouveau spirituel et favorisent également l'introduction de prières et d'air nouveaux en provenance d'Amsterdam ou de Palestine, dans les rites bayonnais et bordelais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la musique que nous avons de ces communautés témoigne de ces échanges humains. Pour preuve, nous allons entendre deux airs de prière enregistrés à Bayonne dans les années 1980. Le premier est le fameux hymne de Kabbalat Shabbat, l'Echa Dodi. Cette poésie religieuse de Salomon Al-Kabetz, qui a vécu entre 1505 et 1580, compare le Shabbat à une reine ou une fiancée qui revient à la maison après une longue absence. C'est un hymne très populaire qui a été adopté par l'ensemble des communautés juives très rapidement et aujourd'hui on dit qu'il y a plus de 2000 airs différents et il s'en crée des nouveaux toutes les semaines. Et ce qui est intéressant dans cet air, c'est que je l'ai moi-même enregistré auprès d'un vieux monsieur et vous l'entendrez à sa voix est chevrotante, il ne chante malheureusement pas juste, mais il est décédé aujourd'hui donc je peux lui rendre hommage, c'est monsieur Guy Herrera qui donc dans les années 80 me chantait cet air que vous allez entendre en prétendant que cet air remontait au roi Salomon lui-même. Évidemment, j'étais un peu sceptique, surtout que l'air me semblait de facture assez récente, et quelques mois plus tard, alors que j'écoutais cet enregistrement à la phonothèque du Centre de musique juive de Jérusalem, la regrettée musicologue israélienne Batia Bayer m'informa que cette mélodie était en réalité une marche turque, particulièrement en vogue en Palestine dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cet air, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, a été utilisé par Mozart dans le dernier chœur des janissaires de son opéra « L'enlèvement au sérail » qu'il a créé à Vienne en 1782. Et donc cet air provient probablement d'un des nombreux émissaires de Terre Sainte qui étaient venus chercher un soutien financier pour les Juifs de Palestine auprès des communautés bayonnaises ou bordelaises. Et comme cela se faisait souvent, lorsqu'un émissaire arrivait, on le faisait monter à la théba, on lui disait « Faites-nous l'honneur de chanter quelque chose », et donc il chantait un air de Jérusalem. Et cet air n'était autre que cet air de ottoman que jouait la fanfare turque à Jérusalem, qu'il entendait régulièrement, qu'il appréciait beaucoup, et sur lequel il avait plaqué les paroles de l'Echa Dodi, comme ça se faisait souvent. On va donc dans l'entendre dès à présent.
Echa dodi likrat kala pene shabbat nekara bela shabor vezachor bedibur echad ishmenyanu era meyuchad.
Voilà un air bien mozartien, dira-t-on, mais on peut chanter l'Echa Dodi likrat kala pene shabbat shabbat nekabela, ça marche très bien, et c'est ce qu'ils ont fait à Bayonne et à Bordeaux, bien entendu. Après, il ne reste plus qu'à attribuer donc la paternité de cet air au roi Salomon, et tout est caché. Donc, on trouve comme ça dans ces musiques les traces de ces échanges humains entre les différentes communautés. De la même façon, on a une prière qui s'appelle Léal Elim, et je vous propose de l'écouter tout de suite, et vous verrez qu'elle provient en réalité du répertoire du XVIIIe siècle de la communauté portugaise d'Amsterdam.
Hey!
Léalélim, donc un extrait de cette prière chantée à Bordeaux par les frères Eric et Olivier Echeverry, suivi donc de la composition Léalélim de Amsterdam, composée par Abraham Caceres en 1738. Comme vous le voyez, il s'agit du même air, simplement il a été repris et adapté pour voix seule ou pour, plutôt pour duo dans la communauté de Bordeaux. Dans ce répertoire de chants portugais, on trouve de multiples influences. Ainsi, on y trouve certaines chansons basques, notamment la prière de Simratora, Eftar Nase Fatai, dont l'air est rigoureusement identique à celui d'une romance du Pays Basque qui s'appelle Matia Nunzira. Qui a inspiré qui? Nul ne le sait. Maurice Benroche Baralia, qui fut chantre à Bayonne entre les deux guerres, et qui a publié un recueil de chants hébraïques traditionnels en usage dans les communautés séfardies de Bayonne, donne un autre exemple frappant. Lorsqu'il faisait un voyage à Jérusalem en 1936, il entend note pour note chanter un air bayonnais de Tisha B'Av, Lemi Efke. Il est un peu surpris, il s'approche de l'endroit d'où provient la mélodie, et quelle est sa surprise lorsqu'il se retrouve face à face à des moines dans un vieux couvent arménien, des moines qui étaient en train d'enterrer un des leurs. Et ces moines chantaient consciencieusement cette mélodie liturgique bayonnaise. Comment est-elle arrivée là? Nul ne le sait également. On constate ainsi qu'à l'instar de toutes les traditions musicales juives, les airs du rite portugais proviennent de sources variées, et souvent non juives. Si l'on devait faire un bref résumé de cette liturgie, on pourrait dire qu'elle est constituée en fait d'une superposition de couches musicales de provenance et d'époques différentes. Les cantilations, bibliques, la psalmodie, relèvent de récitatifs, de procédés fort anciens, qui suivent en fait le texte biblique. La poésie religieuse, les piyutim, sont souvent, mais pas toujours, portent souvent donc les marques de la musique médiévale espagnole, une partie des quinotes également. Mais il y a évidemment des piyutim plus modernes. On trouve également des airs empruntés à l'environnement géographique proche, on a parlé des chants basques, ou plus lointains, comme Amsterdam, comme l'air turc qu'on a vu, ou comme d'autres airs de communautés de rite portugais. Enfin, il convient bien sûr d'ajouter les très nombreux airs de musique savante occidentale, donc la musique mesurée, comme celle de Mozart que nous avons entendue, qui a été composée au cours de ces deux derniers siècles dans un style proche de la musique lyrique. En effet, en 1790, les Juifs séfarades du sud-ouest de la France sont les premiers à être émancipés, un an avant les Juifs comtadins et ashkénazes. En fait, dès le 7 novembre 1787, Louis XVI avait aligné le statut des Juifs de Bordeaux sur celui des autres sujets du roi, donc ils étaient déjà considérés comme émancipés presque 4 ans avant les autres Juifs. Et en 1806, Napoléon Ier relance le processus d'intégration des Juifs de France en convoquant à Paris une assemblée de notables Juifs qui est présidée par un Bordelais, le Bordelais Abraham Furtado. Après 2 longues années, les délibérations de cette assemblée donnent naissance au décret du 16 mars et 19 octobre 1808 qui crée les consistoires israélites que nous connaissons. Et animés d'un réel désir de promouvoir un judaïsme moderne, les nouvelles autorités consistoriales vont profondément transformer le culte israélite français, tant du point de vue architectural, notamment avec la construction de ces vastes temples, et c'est comme ça qu'ils s'appellent les synagogues, ce sont des temples qui sont bâtis en fait sur le modèle des édifices chrétiens, que également sur le plan musical. En effet, les autorités consistoriales veulent donner un nouvel éclat au culte et lutter d'ailleurs contre les multiples lieux de prière, les oratoires privés. Et pour cela, ils favorisent la mise en place d'un corps de chantres professionnels, la création de chœurs d'hommes et d'enfants, l'introduction d'instruments de musique au temple et la composition d'un répertoire choral de chants arrangés ou carrément nouveaux. Et les Bordelais vont être les premiers à en donner l'exemple, avec l'édification du premier grand temple israélite français construit à Bordeaux en 1812. Dans cet imposant bâtiment de la rue Causse-Rouge, qui sera détruit d'ailleurs par le feu en 1873, on célèbre les fêtes avec magnificence. Un chœur d'hommes, qui répète en moyenne quand même 2 fois par semaine, sous la direction d'un chef de chœur, chante les mélodies portugaises qui ont été notées, pour le coup, et arrangées pour chœur harmonisées. Et c'était à partir de cette période que date donc l'essentiel de notre connaissance du rite musical de ces communautés portugaises, françaises. Et pour mieux saisir ce changement, je vous propose d'écouter dès à présent un air qui a été chanté lors d'un mariage à Bordeaux en 1959, donc c'est un enregistrement artisanal, mais vous constaterez, vous entendrez les changements intervenus par rapport déjà à ce qu'on a entendu avant. Barou Rabat, une nouvelle composition de Alphonse Perpignan, donnée ici lors du mariage de Denise Léon, la sœur de Gilbert Léon, que je salue à ce micro et dont je reparlerai, donc de mariage de Denise Léon et Raoul Lokiec en 1959, un enregistrement totalement artisanal et qu'on ne trouve nulle part, et une musique tout à fait charmante. Face donc à cette évolution musicale du culte bordelais, Bayonne va à son tour chercher à donner plus de solennité à ses offices publics. Durant la séance du 9 juin 1813, les autorités consistoriales décident d'aménager la grande synagogue de la Révra de manière justement à pouvoir installer un chœur, à pouvoir faire des cérémonies beaucoup plus amples. Mais cette réorganisation du culte prend du retard suite à l'effondrement de l'Empire napoléonien. Et donc, il faudra attendre les années 1816-1817, la Restauration, pour pouvoir mettre en place ce nouveau culte musical à Bayonne. En fait, on trouve mention pour la première fois le 21 janvier 1817 d'une cérémonie organisée au Temple de Bayonne en commémoration de la mort de Louis XVI. Et à cette occasion, le directeur du chœur, un certain Monsieur Crost, met en musique un fragment du psaume 51, Renenni, que le chœur chante accompagné d'un basson. Cette même année, il y a d'autres cérémonies qui sont données en l'honneur de l'anniversaire de la naissance du roi, et le chœur y participe également en interprétant divers morceaux, tel un extrait de cette prière de Shabbat à Makebe Evrato que nous allons entendre à présent. Chœur à Maquet, par le chœur Orfeo, dirigé par Françoise Richard, extrait donc d'un CD qui s'intitule « Musique de la synagogue de Bordeaux, rite portugais », dont je donnerai les références à la fin de cette émission. On entend bien la place du chœur et la composition de ces nouveaux morceaux. Il faut savoir qu'entre 1812 et 1888, le chœur de Bordeaux va compter entre 14 et 45 choristes. Cela n'est pas rien, qui répète régulièrement, je le dis, avec des règlements, parfois d'une grande rigueur, pour imposer la discipline nécessaire à cette musique savante. Et celui de Bayonne aura à peu près la même ampleur. À la moitié du XIXe siècle, on recense 23 hommes et 16 enfants, qu'on appelle les enfants de chœur, revêtus d'ailleurs d'un habit de cérémonie fourni par la communauté, soit également près de 40 choristes. À Paris, on est un petit peu en retard sur cette voie-là, puisque le recours au chœur est d'abord limité aux occasions officielles. Mais en 1822, l'édification du premier temple consistorial de rite ashkénaz rue Notre-Dame de Nazareth va progressivement instituer l'usage régulier des chœurs d'hommes et d'enfants. Il faudra toutefois attendre l'inauguration de la synagogue séfarade de la rue Lamartine en 1851, puis celle de la rue Buffon en 1877, pour qu'un culte musical équivalent à celui de Bordeaux et de Bayonne se mette en place. À Paris, le compositeur Émile Jonas, directeur de la musique du temple de la rue Lamartine, publie dès 1854 un ouvrage de ses compositions dans lequel il harmonise parfois certains airs traditionnels, mais surtout il compose des nouveaux chants hébraïques, mais il appelle donc son recueil, recueil de chants hébraïques anciens et modernes exécutés au temple de rite portugais de Paris. Et à Paris toujours, le débat sur l'introduction de l'orgue dans les synagogues fait rage depuis 1844. Il faudra attendre 1851 pour que le consistoire de Paris décide d'installer un orgue dans le temple de la rue de Notre-Dame de Nazareth, et surtout 1856 pour que le grand rabbin de France, Salomon Ullmann, reconnaisse officiellement l'utilisation de l'orgue dans le culte synagogal français. Notre-Dame de Nazareth Lamartine, La Victoire et Buffault sont ainsi les quatre premières synagogues françaises à être équipées d'un orgue. Toutefois, à Bordeaux et Bayonne, plusieurs témoignages attestent de l'usage d'un harmonium, donc un petit orgue, pour des cérémonies officielles dès 1833. Aujourd'hui, et ce depuis le début des années 1970, et le retour à une certaine forme d'orthodoxie, l'orgue n'est plus guère joué dans les synagogues françaises, à l'exception des mariages ou des cérémonies officielles. Je vous propose d'écouter deux morceaux, donc composés par Émile Jonas, pour la fête de Pessah, la Pâque juive. Le premier est donc un hymne lor, interprété ici par Adolphe Attia, accompagné toujours du chœur de la synagogue de Bordeaux. Le deuxième sera un Mise Morlaix David, accompagné toujours par ce chœur, dirigé par Françoise Richard et Mag Taillard au piano.
Oh, no.
successivement Himmler ainsi que Miss Morley David, composée par Émile Genas dans une interprétation de Adolphe Attia pour Himmler et de Didier Kassabi, les deux étant accompagnés du chœur de la synagogue de Bordeaux. Malheureusement, le XXe siècle marque le déclin donc démographique de cette communauté portugaise. Il faut dire que la reconnaissance de ce rite comme une composante essentielle du judaïsme français a plutôt été liée au prestige de ses membres qu'à son importance numérique relativement faible. En effet, le nombre de juifs portugais en France n'a jamais dépassé plus de 5000 personnes. Et beaucoup de petites communautés françaises, telles Bidache, Péréorade dans les Landes, la Bastide-Clérance, ont disparu bien avant le XXe siècle. À l'aube de la Première Guerre mondiale, la communauté de Bayonne compte encore tout de même 2000 membres. Ils seront à peine 1000 en 1940. Et durant l'occupation, tous les juifs bayonnais sont évacués de force en avril 1943. Et malheureusement, le grand rabbin Ernest Ginzburger et le razan de l'époque, M. Patchek, sont déportés et ne reviendront pas. Dans les années 1950, la communauté bayonnaise est exsangue. Il ne demeure plus qu'une majorité de personnes âgées. Et le chœur fonctionne avec des effectifs réduits jusqu'en 1975. Sa fin marque symboliquement la mort du rite portugais à Bayonne. Aujourd'hui, dans la belle synagogue bayonnaise, on entend essentiellement une liturgie séfarade d'Afrique du Nord. Seuls subsistent quelques airs de prière encore chantées dans ce rite portugais, témoin d'une grandeur passée qui a duré tout de même près de 5 siècles. À Bordeaux, les 2/3 des juifs portelais ont été déportés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La grande synagogue saccagée n'a été rénovée qu'en 1956. Et c'est l'arrivée de 3000 juifs d'Afrique du Nord qui sauve la communauté bordelaise de la mort. Mais dans le même temps se pose le problème de la coexistence, voire de la confrontation des différents rites au sein d'une même communauté. Il est alors décidé de partager équitablement les offices entre les rites bordelais et d'Afrique du Nord. Le premier soir de chaque fête est attribué au rite portugais, le deuxième soir au rite nord-africain. Et les prières de Shabbat se font également dans l'ordre de rite. Si bien qu'aujourd'hui à Bordeaux, on chante indifféremment sans savoir plus à quel rite se rattachent les prières que l'on fait. Moïse Alvarez Pereira est le dernier razan d'origine portugaise. Il officie jusqu'en 1953. Lui succède le rabbin Maurice Zerbib, originaire de Constantine, Algérie. Puis, après lui, Robert Rebi, également d'origine constantinoise, dont je vous propose d'écouter quelques secondes d'un très bel air, un Keter, dans lequel on sent l'influence espagnole.
Keter de
La très belle mélodie portugaise du Keter, chantée ici par Robert Rebi. Aujourd'hui, donc, le rite portugais ne subsiste plus que dans 2 synagogues en France, celle de Bordeaux et celle du Buffault à Paris. Et les présidents de ces communautés, actuellement M. Abisrat et M. Balmain, continuent à défendre la persistance de ce rite au sein de leur synagogue, dont la majorité des fidèles n'est plus d'origine portugaise. Au Talmud Torah, les enfants continuent à apprendre les prières et la lecture de la Torah, souvent avec la cantillation du rite portugais. Et notamment grâce à l'action de fidèles, on peut le dire, tel Gilbert Léon qui a enseigné aux enfants au Talmud Torah de Bordeaux pendant des années. Donc je profite de cette émission pour saluer Gilbert Léon, mais également Henri et Hélène Sancy, née Alvarez Pereira, pour leur action en faveur de la connaissance de ce rite portugais. Et bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les études historiques sur lesquelles je me suis appuyé, celle de Henri Léon, étude ancienne, mais Bernard Blumenkranz, Gérard Naon et bien d'autres encore. Et pour finir cet hommage en musique, je vous propose d'écouter les voix de Gilbert et Michel Léon dans un extrait de la prière Emet.
Emet Meller.
Goel hu Moshiach.
Emet Mimitzrayim. Galatanu Adonai Eloenu. Mi bet habadim peritanu. Kol bechorehem harakta, uchorecha Yisrael gahalta. Veyam suflahem bakanta, vejivim tibanta, vididim haberuyam, vaychasum mayim tsarehem.
Echad me'avlon notar.
Emet Veyatziv, interprété par Gilbert et Michel Léon. Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission est maintenant terminée. Si vous souhaitez la réécouter ou la faire entendre à vos amis, je vous rappelle qu'elle est disponible le lendemain de sa diffusion sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.cfmj.fr, ainsi que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez également vous procurer les deux livres que j'ai écrits sur le sujet, un livre généraliste publié chez Actes Sud incluant un CD qui s'intitule « Musique liturgique juive, parcours et escale » et le deuxième, un peu plus spécialisé, publié aux éditions Maisonneuve et Larose, « Les traditions musicales judéo-portugaises en France ». Vous pouvez également acheter le CD « Musique de la synagogue de Bordeaux » sur lequel je me suis largement appuyé en contactant l'Institut européen des musiques juives au 01 45 82 20 52. Je répète, 01 45 82 2052. Au micro Hervé Roten, Avner que je remercie à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.